bon sens.
Midi, une minute, vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. Mon nom, c'est Anne Marceau. Son nom, elle, c'est Pascal Cévé. Elle se réjouit d'avoir du Def Leppard sur les ondes de Boulevard.
J'aime beaucoup Def Leppard. Il vient, le band, au fait qu'on est content. Mais d'accueillir mon collègue Yannick Marceau en ondes sur Some Sugar on Me, je suis pas tant à l'aise, imagine, avec notre prochain chroniqueur.
Espérons que ça passe. Ça fait quand même 2 semaines et à chaque fois, j'en entends parler. Ah, c'est pas chaud pour la pompe à l'eau. Tu sais, quelqu'un qui peut mettre une bûche à l'extérieur présentement? Un genre de moins 21 comme température ressentie. On nous dit qu'à l'aéroport international, Jean Lesage, c'est un moins 13 actuellement. Ensoleillé tout au long de la journée, un maximum de moins 7 degrés. Ce soir, des nuages avec un minimum de moins 15. Et demain, mardi, ce sera de la neige. Donc, ça devrait s'adoucir un peu, cette température-là. Accumulation de 2 cm, maximum de zéro. Le prochain à qui on parle, c'est Jérémy Guillot, qui est un analyste politique. On a le plaisir de l'accueillir après Def Leppard, Porsche,
Song Sugar, Sugar of Me. On me.
Ouais.
Comment tu te sens, Jérémy?
Comment ça va?
Bonjour à vous deux. Ça
content,
va bien.
Content de vous jaser. J'imagine que pour un analyste politique ces temps-ci, il y a beaucoup d'actualités. Ça a commencé avec vendredi. Faire ça un vendredi, scandale à la Maison-Blanche. Zelensky qui se fait faire la leçonnette par le grand orange, l'autre bord, assisté de J.D. Vance, qui est son vice-président des États-Unis. C'est assez particulier comme image. Puis j'aimerais juste te poser la première question. Est-ce que normalement ce type de rencontre-là se fait exactement comme ça, mais à l'abri des regards, où on a fait un sketch dans le but de discréditer Zelensky?
Il fait pas juste froid au Québec en ce moment, hein, il faisait froid à Washington. Moi, j'ai jamais vu ça. Je vais être bien honnête avec vous. Devant caméra, derrière les caméras, j'ai jamais vu ça. Même avec des adversaires politiques, normalement, c'est plus cordiaux, mais bon, en même temps, du jamais vu, c'est ce que Donald Trump nous donne depuis qu'il est de retour à la Maison-Blanche à presque tous les jours, donc je pense pas qu'il faut s'étonner. Mais il y a quelque chose d'étrange dans le revirement de situation.
Oui.
On traite un allié, ben, ce qui était un allié du moins comme un adversaire, alors qu'on traite un Vladimir Poutine comme soudainement un grand ami et quelqu'un de raisonnable du côté des États-Unis.
On est loin de la guerre froide d'antan, là.
Ben c'est franchement étonnant, surtout en connaissant l'histoire du Parti républicain et sa position traditionnelle face à la Russie, de voir Donald Trump un peu se mettre du côté de Vladimir Poutine dans l'histoire, c'est inquiétant, c'est surprenant.
Mais est-ce qu'il
et
s'est
de
mis
voir ces deux hommes-là s'en prendre à un leader qui est en situation de guerre, qui craint pour sa vie, celle de ses proches, puis celle de ses compatriotes au quotidien, ça rajoute à l'histoire.
Ouais. Parce qu'en fin de semaine, je me posais la question, tu sais, c'est quoi la stratégie de Vladimir Poutine en Russie? Tu sais, pourquoi il en veut tant à l'Ukraine? Pourquoi il y a de ça quelques années, la Géorgie, les Russes étaient rentrés en Géorgie, puis on avait fait le ménage. Puis je suis retourné en 1990, c'était l'effondrement du mur de Berlin. Il y avait James Baker, qui était un envoyé spécial de George Bush à l'époque, qui avait été rencontré, c'était Mikhail Gorbatchev qui était là à l'époque dans les années 90, et il y avait eu discussion entre eux sur l'avenir de l'Europe. Et ce qu'on avait discuté, c'est quoi l'OTAN, jusqu'où l'OTAN veut s'étendre et jusqu'où Gorbatchev va accepter que l'OTAN s'étendre. Et Baker avait signé un pacte avec Gorbatchev à l'époque pour dire on va s'arranger pour que l'OTAN ne s'étende pas jusqu'à vos frontières. Et ça, à l'époque, Vladimir Poutine était pour le KGB. C'est un agent secret, un agent spécial du KGB. Et par la suite, un an plus tard, ben là, on sait ce qui est arrivé. Là, ça a été l'effondrement de l'URSS on a redistribué d'autres territoires pour finalement avoir la fameuse Russie. Puis en 2008, Vladimir Poutine avait dressé justement son fameux coussin de sécurité entre la Russie et l'OTAN et il avait mentionné 3 pays à l'époque. Je vais juste retourner dans mes notes là, pour être sûr et certain de ne pas vous induire en erreur. Il avait mentionné l'Ukraine, il avait mentionné la Biélorussie et il avait mentionné la Géorgie. Et l'OTAN n'a pas vraiment écouté Vladimir Poutine à l'époque et ont décidé de se faire amis avec la Géorgie, ce qui fait que Vladimir Poutine avait décidé de faire le ménage en Géorgie. Et pour ce qui est de l'Ukraine, c'est un endroit qui appartenait avant à l'Union soviétique. Là. C'est pour ça qu'il y a énormément de Biélorusses qui sont au nord de l'Ukraine, qui veulent être annexés avec la Russie aussi. Et je me dis, si j'étais Poutine puis que je vois que l'OTAN veut rentrer chez nous, c'est bel et bien clair que je voudrais faire ce genre d'acte-là.
Mais il y a des petites nuances là-dedans. Ben, des nuances, dire, il est revancheur juste... de quelque chose qui était
oui,
clos,
je comprends
était
tout ça, mais c'est parce que nous autres, on regarde ça avec des émotions, puis là, ben voyons, qu'est-ce qui se passe et pourquoi? Mais je me suis mis dans la tête de Vladimir Poutine, et si j'avais été toujours élevé dans la haine de l'Occident, puis de
ça
voir...
Ça donne-tu le droit de faire ça?
De voir ben, que l'OTAN s'approche de moi, ben je réagirais peut-être comme lui.
Vas-y,
mais moi, je suis...
Oui, mais l'OTAN s'approche de lui parce que lui a décidé de faire ses actions
exact.
De guerre dans son idée...
D'user de violence.
Mais il avait averti, par exemple, si vous vous approchez de la Russie, je vais réagir, et c'est ce que l'OTAN n'a pas écouté. Et Zelensky a tenté de riposter. Là, il fait une guerre à rabais avec l'argent des autres. Mais c'est
si
très...
vous approchez pour m'empêcher d'envahir,
ces
je vais répliquer, Yannick,
ces
c'est épouvantable.
Ces date de plusieurs dizaines d'années.
Et donc, ils sont légitimes d'user
ben,
la violence,
non.
d'user des actes
c'est,
de guerre.
Si tu es dans la tête de Vladimir Poutine, tu vois la vie pas mal différente
mais
de
ça,
celle
est...
que tu vois là
c'est
actuellement.
C'est sûr. Puis c'est là où on peut aller sur deux... Je m'excuse, Jérémy, on va te laisser parler. On peut aller sur les deux pans, essayer de comprendre. C'est là où les analyses politiques, la compréhension de l'histoire est extrêmement importante.
Mais actuellement, l'invasion est en surface.
Cependant...
On parle pas du passé.
Ben, attends, là, ce qu'on parle, c'est de la façon dont on a fait de la politique. Parce que Trump, il aurait pu ne pas prendre de parti à ce niveau-là. Là, il a pris parti. Ce n'est pas des compromis qu'il a demandé.
Il
c'est d'abdiquer en demandant à Zelensky de tout simplement arrêter d'abdiquer puis de juste prendre les compromis de terre. C'est pas un compromis de terre, Yannick. Ça fait des années maintenant que son peuple souffre, que son peuple s'est fait violer, qu'il s'est fait décimer, que le territoire est gangrené, en fait, de Russes qui sont allés. Il y a même des Russes qui n'étaient pas d'accord avec cette guerre-là depuis le début, qui ont été enfermés, qui ont essayé de s'élever contre Vladimir Poutine et le propre gouvernement en disant « ça n'a pas de sens, là. On n'ira pas dans le fait de conquérir des territoires pour quelque chose qui est revancheur, qui est fidèle à sa personne. » C'est de l'ego. Vladimir Poutine, à la base, c'est ça.
Ben
il n'y a
oui.
personne qui a levé la main pour aller chercher
mais
ces territoires-là à part.
Mais c'est des décennies d'histoire.
Il a perdu la face il y a des années. Ouais. Il voulait la retrouver.
Ben, tous les conflits internationaux sont des résultats de décennies et décennies d'histoire. À ce point-là, on pourrait aussi dire qu'en 1949, l'OTAN a été fondée comme une initiative des États-Unis. L'Union européenne a été fondée à la base par une politique américaine de reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale. Mm-hmm. Puis par les actions de Vladimir Poutine, la Suède a aussi brisé son statut de non-ingérence en joignant l'OTAN l'année dernière à cause des actions de Vladimir Poutine. Fait que c'est sûr que c'est dans ce conflit-là, ce qui est compliqué, c'est un, il y a l'histoire, deux, il y a les chaînes d'événements qui s'enclenchent parce que là, bon, plusieurs personnes se sentent menacées dans ce conflit-là et on voit les plaques tectoniques qui changent. De
exact.
Voir Donald Trump ne pas défendre les démocraties de ce monde après 250 ans d'histoire à ce que les États-Unis jouaient un rôle de leader à défendre les démocraties dans le monde, là, on se retrouve dans une position où on a l'impression que le président des États-Unis s'allie avec quelqu'un qui constamment bafoue les droits démocratiques des sociétés dans ses environs. Donc, moi, je pense que c'est ça aussi qui demande un rééquilibrage et ça met le Canada et l'Union européenne dans une drôle de position parce qu'un allié, peu importe qui était au pouvoir des États-Unis dans les dernières années, n'en demeurait pas moins que les États-Unis allaient toujours être un allié des démocraties dans le monde.
Mais...
Et là, ça semble plus aussi évident.
Mais l'accord de paix va se faire comment, si ce n'est que de donner à Poutine ce qu'il veut, c'est-à-dire un coussin de sécurité qui va faire en sorte que l'OTAN ne se rapprochera pas de ses frontières. Parce que c'est ce qu'il veut, il en parle depuis des décennies.
Mais ça, c'est un rap facile.
Puis on a annexé dans les dernières années, là, depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir, on a annexé l'Hongrie, la République tchèque, la Pologne, on a annexé la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie. La Slovénie, à un moment donné, le fou rouge, l'autre bord, il n'est pas plus fou qu'un autre. Il est élevé
c'est
dans
pas
la haine.
Le temps qui a annexé ces pays-là, plus que les gens de ces pays-là qui ont voté
qui ont adhéré.
Pour ce
non,
point
ils ont voté démocratiquement
oui,
pour
leur je suis entièrement d'accord. Le point est regarder la vision d'un individu comme Vladimir Poutine qui a été élevé dans la haine
on
de l'Occident.
On peut la comprendre. On peut la comprendre, sa vision. Mais est-ce qu'il faut lui donner ça?
Ben, j'ai pas dit ça.
Mais c'est pour ça qu'on revendique en ce moment la façon dont la politique est faite. Parce que, je veux dire, lui, il veut reconstituer la grande Russie d'autrefois. Là. Lui, il est revancheur, il veut retourner là.
Ce que je veux savoir, Jérémy, c'est quoi le plan? Si c'est pas ce que Trump tente de mettre en place, là, si c'est pas ça le plan, ça va être quoi? Parce qu'actuellement, là, on va chercher des milliards et des milliards et des milliards de dollars dans les poches des individus pour envoyer ça en Ukraine. On n'est pas capable de suivre l'argent, où est-ce qu'elle va exactement. Et Trump, il menace de se retirer. C'est quoi la solution idéale?
En même temps, quand on investit de l'argent dans de l'équipement militaire, il ne faut pas oublier que c'est de l'argent qui est investi dans des compagnies américaines,
oui.
Et donc qui bénéficie aussi à l'économie américaine.
L'armement, oui.
Donc, tu sais, il y a plusieurs choses. Le plan doit inclure. Moi, je suis pas un spécialiste des affaires internationales. Je suis pas un spécialiste des affaires militaires, notamment. Mais moi, je pense que, comme dans toute bonne négociation, le plan doit inclure les deux parties qui sont à la table et ne peut pas être négocié par des intermédiaires. Les parties qui sont impliquées dans le dossier, c'est l'Ukraine, c'est l'Union européenne et c'est la Russie. M. Trump ne peut pas faire fi de ces éléments-là, selon moi. Et l'Union européenne et l'Ukraine doivent être à la table parce que si on laisse la Russie empiéter son territoire sur des territoires européens, bien, on déstabilise l'ordre mondial qui a été établi depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est mon opinion. Mais là, moi, je suis pas un expert de ces questions-là de façon générale.
On voulait parler avec toi beaucoup plus des impacts que ça avait au fédéral, au provincial, ces façons de jaser là. Mais quand même, mettons que je fais un aparté puis je continue là-dessus. Qu'on se place pro-Trump, qu'on apprécie les idées de Trump, qu'on apprécie la façon de négocier et autres. Moi, ce que je vois là, c'est qu'il y a un parti pris évident qui a été pris. Puis la problématique principale que je vois par rapport à ça, c'est toujours de se poser la question au profit de qui? Trump fait pas ça au profit de la paix en ce moment. Il le dit comme ça parce que ça passe mieux dans la tête des gens. Mais il veut aller chercher quelque chose. Puis là, maintenant qu'on extrapole, qu'on commence à réfléchir, une alliance qu'il souhaiterait avec la Russie en ce moment, avec Poutine, c'est probablement pour aller chercher quelque chose. Qu'est-ce qu'il convoite? Il convoite aussi des ressources au Canada ici. On commence à être en chicane, on commence à mettre des tarifs. Poutine a des bases militaires dans le Nord depuis des années, qui prend soin, qui sont très, très adaptés, qui sont technologiques. Y aurait-il une alliance de prise de possession de ressources? Pourquoi il veut une alliance avec la Russie? Il faut toujours se poser la question à qui ça profite. Politiquement parlant, j'ai jamais vu ça de ma vie. Pour moi, c'est pas Trump que je vis, c'est la politique de Trump. C'est ce que j'ai vu à la Maison-Blanche vendredi, une sombre idiotie de politique de bouche d'égout. C'est de même que je l'ai dit, un dîner de cons. C'est pas des compromis qui ont été demandés, c'est d'abdiquer. C'est pas la paix qui a été demandée, c'est la création d'une alliance Trump-Poutine. Puis ça fait en sorte que ça, au moindre désaccord ou salissage entre les deux égaux démesurés de ces politiciens-là, si on peut dire politicien.
Ouais.
Pour moi, j'ai d'autres mots quand même et d'autres termes.
Moi, parce que
C'est pas de l'émotion.
Ben oui, c'est de l'émotion. Non. Parce que t'es dans les hypothèses constamment, mais j'ai pas vu d'alliance encore entre Vladimir Poutine et Donald Trump.
Il y a t'as pas vu. Mais là, à un moment donné, il faut lire entre les lignes aussi la manière dont on a traité Vladimir Zelensky.
Valent quoi quand tu lis entre les lignes?
Mais non, mais je veux dire, t'as vu la scène.
C'est épouvantable.
C'est pas de l'amitié.
Non, pas du tout.
C'est pas un souhait de paix. C'est un souhait que tu t'abdiques. Pas, moi je te ramasse et je te fais passer pour un stupide devant tout le monde.
Oui.
C'est un genre Penses-tu que Poutine n'était pas content de ça?
C'est clair qu'il était très heureux de ça.
Dans cette politique-là qu'on a vue, c'est des gains personnels. C'est un genre d'alliance avec un dictateur que je ne comprends pas, qui sont loin des valeurs occidentales actuelles. Il n'aurait pas dû avoir de parti pris là-dedans. S'il souhaitait absolument mettre son pied là-dedans, Trump, il aurait dû négocier de façon égale avec les deux parties. Ça veut dire, s'il veut, il se serait jamais permis d'humilier Poutine comme ça. Là.
Pascal, vas-y. M. Trump devrait avoir un parti pris. Il devrait avoir un parti pris comme leader du monde démocratique, il devrait avoir un parti pris pour le dirigeant d'une nation démocratique qui présentement se fait envahir par un dictateur.
Mais moi, pourquoi je le précisais pas comme ça, c'est que je me dis que si, stratégiquement, face à un homme à l'ego démesuré comme Poutine, tu gardes ta main de fer sans avoir de négociation du genre, pas nécessairement houleuse, ça va peut-être pouvoir faire avancer un petit peu plus les affaires, mais assurément que la démocratie là-dedans, si on regarde la fragilité dans le monde en ce moment, la situation géopolitique qui se fractionne partout, les alliances entre Chine, Russie, toutes les constructions du côté de l'Afrique, il y a quelque chose qui est en train de se faire, puis on peut pas laisser aller ça quand on connaît, mettons, la mesure de paix que la façon de la démocratie l'amène, puis ce qu'on a vu après la Deuxième Guerre mondiale, ça a été créé pour pas qu'on retourne là. De clamer que Zelensky va mener à la Troisième Guerre mondiale devant tout le monde, de demander la paix, Trump qui fait ça, quand il n'est pas capable de l'avoir dans son propre village, puis tout ce qu'il fait, c'est diviser son monde depuis le début, puis d'agir de cette manière-là.
Mais encore là, proclamer la paix, il va faire comment? Je comprends pas, là. C'est quoi l'entente qu'il y a?
Tu donnes pas à quelqu'un en ce moment, se dit victime, là, Poutine, ouais, parce que de sa vision, etc.
En fait, en 2008, il y a eu une rencontre à huis clos avec l'OTAN. Il a donné trois pays. Je vais les répéter parce qu'il y a tellement d'émotions que les gens sont
Qu'on s'en va vers la fin de la domination
occidentale. La Biélorussie,
occidentale,
l'Ukraine, la Géorgie. L'OTAN a dit oui. C'est une rencontre qui était à huis clos. Puis après ça, on a eu accès aux retranscriptions les semaines suivantes. L'OTAN a dit, effectivement, on n'approchera pas de ces trois pays-là, on va respecter l'entente. Et ils ont encore une fois trahi Poutine, qui a été élevé dans qui a été élevé dans la haine de l'Occident. Mais est-ce que
après que Poutine ait envahi ces pays-là pour agrandir son territoire.
Donc, c'est
important de le dire, parce que les engagements de l'OTAN ne doivent pas non plus dédouaner Vladimir Poutine pour aller envahir des pays.
Mais il
n'y
a jamais personne qui dédouane ça en Occident. Je veux dire, ce qu'il fait là, c'est épouvantable. Mais il y a eu des avertissements au départ. Ça a commencé avec Gorbatchev, où il a signé un entente avec James Baker.
Mais pourquoi tu lui laisserais ce pouvoir-là, Yannick? Pourquoi tu lui laisserais ce pouvoir-là en disant il a averti, il a dit...
C'est l'OTAN qui s'approche.
Si moi, je te dis demain... Regarde, je veux dire, à sa plus simple expression, okay? Moi, je veux ton micro demain.
Tu ne m'as pas donné de date. C'est l'OTAN qui s'approche. Gorbatchev les avait avertis avec James Baker. Puis en 2008, Poutine a rencontré l'OTAN. Puis il a dit, moi, ces trois pays-là, c'est des pays coussins. Je ne veux rien savoir de l'OTAN. Je te le dis, ce gars-là est élevé dans la haine. Peut-être que Trump a été élevé dans la haine de l'autre aussi. Moi, ça, je ne le sais pas. Je ne vais jamais avec des hypothèses.
Il faut continuer ta ligne du temps, Yannick. Moi, je pense qu'il faut continuer la ligne du temps. 2008, après cette entente-là. 2014, annexion de la Crimée par la Russie à partir du 28 février où les troupes russes se déplacent en Crimée pour annexer un territoire qui, à l'époque, était ukrainien aussi. Et là, après ça, ça en va, il y a 3 ans, en Russie pour prendre une partie est de l'Ukraine. Et c'est là que l'OTAN commence à s'en mêler. C'est là que l'Ukraine dépose ses droits pour démonter, de rejoindre l'OTAN. Donc moi, je pense qu'il faut... Oui, je comprends que M. Poutine disait « Moi, je veux pas voir l'OTAN arriver », mais il faut pas que ce soit « Moi, je veux pas voir l'OTAN arriver parce que je veux étendre ma région d'influence ». C'est là mm-hmm. que je trace la ligne, mais bon.
Moi, je veux ces territoires-là, fait qu'essayez pas de m'arrêter. Non, mais c'est important.
On est beaucoup dans l'analyse de ce qu'on a vu vendredi, mais c'est des conflits qui persistent depuis des décennies,
des années.
Tout le monde est dans les émotions, puis là, quand t'en pognes un qui déteste Trump, il s'en permet, puis il y a plusieurs mots dans ses phrases, puis Trump, c'est un ci, Trump, c'est un ça. Mais si on avait été élevé dans la haine comme ce salaud-là, probablement qu'on ferait la même maudite affaire. Ouais,
mais ça
avec
veut pas
l'OTAN.
Dire l'analyse de le comprendre est super importante. Par contre, ça veut pas dire qu'on doit dédouaner ce qu'il est en train de faire.
Avec mon
d'ouvrir
argent,
cette porte-là à Vladimir Poutine en disant tu peux.
Ouais.
Si tu as envie, il n'y a pas de conséquences.
Avec
il
n'y
en aura
argent,
pas. Puis même que les États-Unis, ceux qui ont défendu tout ce qui est OTAN, tout ce qui est démocratie depuis des années,
ouais,
qui en ont eu une guerre froide envers la Russie dans les années précédentes puis dans l'histoire, se joignent à ce discours-là et donnent aucune conséquence à l'invasion de Poutine, c'est un peu spécial.
On continue de payer? On continue de payer en sachant pas de quelle façon il redistribue l'argent à l'Ukraine, parce que Zelensky a mentionné qu'effectivement, il y a beaucoup d'argent qui est arrivé, mais qui n'est pas au fait de tout l'argent qui est arrivé dans le pays.
J'ai jamais écarté le fait qu'il y a des rumeurs, qu'il y a des choses qu'on doit être très ouvert à l'analyse. Tu allais dire quoi, Jérémy?
Ce gars-là était un
pourri. Que Christopher Freeland a nous apporté une solution qui pourrait peut-être mettre fin à cet inconfort-là.
Ce serait quoi?
Envoyer l'argent public, parce qu'il y a des valeurs qui ont été immobilisées, qui appartiennent à des oligarques russes au Canada, aux États-Unis. Puis Christopher Freeland a dit, moi, j'aimerais ça faire tout à mon possible pour pouvoir aller prendre cet argent-là qu'on a saisi à la Russie et l'investir dans la défense de l'Ukraine. Donc, ça, c'est pas de l'argent des contribuables.
Ouais.
C'est de l'argent qui appartient à des oligarques russes, à la Russie, et là, qu'on investirait pour aller défendre la Russie. Bon, il reste à voir si c'est complètement faisable, mais je trouve que c'est une idée qui est intéressante. À ce moment-là, c'est pas l'impôt des contribuables, c'est l'argent russe qu'on utilise pour défendre
la Russie. Ça serait une excellente idée. Puis est-ce que, là, on est en temps de guerre actuellement en Ukraine, là, donc d'avoir des élections, ça n'a comme pas de bon sens, mais la stratégie de Trump de déstabiliser Zelensky en disant que c'est un dictateur puis qu'il devrait pas diriger son pays, c'est quoi cette stratégie-là derrière? Parce qu'on est en temps de guerre, on peut pas faire des élections en Ukraine, ça aurait comme pas de bon sens.
Ben là, c'est peut-être là qu'on est un petit peu pas d'accord, toi et moi, mais je pense que cette stratégie-là, c'est notamment une stratégie qui est écrite par la Russie, de déstabiliser Zelensky pour le faire avoir l'air d'un dictateur. On pourrait pas tenir une élection en ce moment. Puis Zelensky a même offert, s'il fallait démissionner pour avoir un accord de paix, il le ferait. Je suis pas sûr que cette personne-là, en parlant de Vladimir Zelensky, veut être dans cette situation-là. Ça doit faire 3 ans qu'il n'y a pas eu une vraie nuit de sommeil. 3 ans qu'il craint pour sa vie, celle de ses proches puis celle de ses compatriotes. Monsieur Zelensky a beaucoup sur la ligne. Là. Au début, les États-Unis avaient offert à Monsieur Zelensky de le rapatrier, de le sortir de l'Ukraine. Il a dit non, le combat il est ici. On n'a pas besoin de déportation. On a besoin de munitions. Et il est resté sur les zones de combat. Il a fait preuve d'héroïsme dans les dernières années. Et ça, je pense qu'il faut pas l'oublier. Et c'est comme si Trump essayait de le dépeindre en vilain dans l'histoire, alors que l'agresseur dans la situation, ça reste la Russie, selon moi.
Ouais. Est-ce qu'on pourrait le pousser à démissionner, Zelensky? Parce que là, je vois qu'en Ukraine, il y a des gens qui commencent à le challenger. Est-ce qu'on pourrait le pousser à démissionner?
Ben, je pense que M. Zelensky, le premier, serait prêt à démissionner si c'était dans l'entente de paix, d'accord de paix.
OK. Puis, dernière question par rapport à ça. Est-ce que tu penses que Trump va se retirer du financement de cette guerre-là?
Prévoir ce que M. Trump va faire, c'est très difficile. Là. Récemment, c'est comme savoir si demain il va avoir ou pas des tarifs sur le Canada.
Ouais.
Mais je pense qu'éventuellement, M. Trump va retirer. Il a déjà retiré publiquement son appui verbalement à l'Ukraine. Je pense que ça ne sera qu'une question de temps avant que le financement soit retiré. M. Biden, avant son départ, a fait le maximum pour confirmer du financement et du soutien. Une fois que ça sera écoulé, je suis pas certain qu'on va voir un Donald Trump renouveler ce financement-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a vu Justin Trudeau avec les leaders européens en fin de semaine.
C'était pas très concluant, par exemple. C'est un petit peu plus gênant que d'autres choses. Mais qu'est-ce que t'en penses?
Ah, moi, j'ai trouvé, au contraire, que Justin Trudeau s'est quand même bien sorti d'affaire. J'ai trouvé sa performance rassurante. Et j'ai trouvé que ça envoyait un message intéressant de voir le premier ministre du Canada comme le seul leader non-européen présent à ce sommet-là. Ça montre tout le changement des plaques tectoniques qui est en train de s'opérer d'un point de vue géopolitique à travers le monde.
C'est une façon de lire entre les lignes pour toi ce qui s'est passé aussi depuis quelques jours, en fait, par rapport à justement les alliances qui sont en train de se créer puis qui va prendre parti avec qui?
Ah, 100%, c'est une façon de voir qui les prochaines alliances, là, les prochains partenaires. En même temps, c'est pas surprenant. Quand on voit Donald Trump qui, à plusieurs reprises, dit qu'il veut annexer le Canada, en faire le 51e État, nous menace de tarifs qui pourraient faire mal aux deux économies, je le précise. C'est pas surprenant de voir le Canada chercher à se faire un nouveau meilleur ami. Puis, tant mieux si c'est l'Union européenne qui vient avec quand même un vaste marché aussi, donc à voir qu'est-ce qui va se passer pour la suite, mais c'est sûr que c'est dans les plans du gouvernement.
Jérémy Guillot, t'as parlé de Chrystia Freeland qui pense être capable de financer la guerre de cette façon-là. Je trouverais ça franchement intéressant de prendre l'argent des Russes là, pour se battre contre les Russes, mais le manque à gagner si les États-Unis se retirent, va falloir le faire. Je regardais ce matin le financement là, pour ce qui est de cette guerre-là. Les États-Unis sont au-devant, puis comme tu le disais tantôt, les entreprises américaines qui sont spécialisées dans l'armement reçoivent énormément d'argent de tout cet argent-là. Ils vont prendre le manque à gagner où? Est-ce que c'est les pays européens qui vont devoir compenser l'argent que les États-Unis n'envoient pas?
C'est les pays européens qui vont devoir compenser parce que pour les Européens, c'est l'intégrité de leur territoire qui est en question ici. Donc, c'est sûr qu'il va falloir trouver qui, si les États-Unis ne sont pas meneurs dans cette course-là, il va falloir trouver un nouveau meneur. Et on entendait certains premiers ministres, je pense notamment au premier ministre britannique, qui disaient que ça va quand même prendre une forme d'implication américaine si on veut espérer remporter ce conflit-là. Donc, ça montre aussi à quel point les Américains sont essentiels pour un triomphe ukrainien et européen.
De retour au Canada, Jérémy Guillot, quand est-ce qu'on couronne Mark Carney?
Ça va se faire dimanche, d'après moi. tout pointe vers ça, même si le vote est un peu difficile en ce moment. On voit comment Mark Carney va dominer le vote. Les débats de la semaine dernière, sa semaine difficile, ne changera pas l'issue du vote, selon moi. Ce qui va être intéressant à regarder dimanche prochain, ça va être la course à la deuxième place. Parce que je ne serais pas surpris de voir Carina Gould coiffer Chrystia Freeland à la deuxième place.
Même
pourquoi?
Réflexe, ouais.
Parce qu'elle pige dans un bassin d'électeurs libéraux différent de celui de Mark Carney et Chrystia Freeland, qui ont essayé de se centrer un peu vers la droite, alors que Carina Gould est restée à gauche, assume l'héritage de Justin Trudeau, parle aux jeunes, parle aussi aux organisateurs du parti en suggérant des réformes à la structure même du parti. Donc, elle va vraiment piger dans un bassin qui est différent. Elle a eu un style différent dans les débats. Il y a plusieurs personnes, je pense, qui ont été surpris de voir sa performance, d'accord ou non avec ses idées. Mais elle parle à une frange libérale qui est vraiment distincte de celle que les deux autres des deux autres concurrents comme Mme Freeland et M. Carney. Donc, ça va être intéressant à suivre, mais pour la deuxième place.
Elle se décolle pas trop de ce qui a été fait dans les dernières années. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Parce que, bon, beaucoup pointent du doigt Justin Trudeau avec la façon dont il a fait de la politique. Mark Carney glissait à l'oreille certaines informations, mais il parle pas souvent du fait qu'il était très proche de Trudeau. Pour Freeland, elle a pris une position qui est complètement contraire à celle de son chef de parti auparavant, en disant qu'elle était pas d'accord puis elle a démissionné. Mais pour elle, elle dit quand même qu'elle faisait partie du Parti libéral, puis elle endosse beaucoup de choses qui ont été faites. Est-ce que ça pourrait lui unir pour l'électorat?
Mais en même temps, elle était leader en chambre, elle a défendu ces réformes-là à tous les jours.
Absolument.
Faut pas oublier une chose, une course à la chefferie, ça parle aux libéraux. Une élection générale, ça parle à l'ensemble de la population.
Ouais.
Donc, Madame Gould, à travers ça, elle parle à qui quand elle défend le bilan des dernières années?
Elle parle aux cartes de membres.
Exactement. Donc, c'est les cartes de membres qui votent.
Ça a servi, ça, pour les votes, justement, les cartes de membres?
En fait, il n'y a plus de cartes de membres à proprement parler au Parti libéral du Canada. On peut devenir membre du Parti libéral. À ce moment-là, il y a eu une augmentation des membres depuis le début de la course à la chefferie. On dit qu'il y a 400 000 personnes d'enregistrées pour voter. Mais en même temps, ils ont resserré énormément la sécurité du vote, ce qui est bien d'une perspective d'ingérence étrangère, mais de l'autre côté, quelqu'un comme moi, qui a été un ancien stratège, a été incapable de voter parce que c'est tellement compliqué. J'ai déménagé depuis la dernière fois que le Parti libéral du Canada avait mes informations. Donc là, les informations sur mon permis de conduire correspondent pas aux informations qu'ils ont. Ça devient extrêmement compliqué. Je serais pas surpris que plusieurs personnes ne soient pas capables de voter. En même temps, est-ce qu'on peut leur en vouloir d'avoir resserré les mesures de sécurité dans les conditions qu'on connaît présentement? Je pense pas.
Mais je pense que c'est ton nom de famille qui est écrit différemment, là, qu'ils ont toutes mêlées, Jérémy. Hey, Carina Gould, moi, je l'ai trouvée rafraîchissante. Je trouve qu'elle faisait différent des trois autres qui étaient là, auxquels on était peut-être habitués, là, de la vieille politique et tout ça. Est-ce qu'elle s'est pognée une job plus facilement là, de ministre si les libéraux reprennent le pouvoir? J'ai l'impression qu'elle aura peut-être un portefeuille plus sérieux. Puis en même temps, ben, Chrystia Freeland, d'après moi, devrait rester en place puisque, je ne me trompe pas, elle a des liens familiaux avec Mark Carney. Là. Mais pour ce qui est de Carina Gould, est-ce qu'elle va se faire confier des tâches plus importantes?
Elle était quand même leader parlementaire ensemble. Ouais. C'est quand même une grosse responsabilité. Mais effectivement, Carina Gould s'est garantie une place dans l'équipe de Mark Carney. Et je vais même aller un peu plus loin que ça. Je pense même que Mme Freeland a démontré son importance au sein du gouvernement. On a vu Mme Freeland venir au secours de M. Carney à quelques reprises, notamment dans le débat en français. Ceux et celles qui aimeraient la voir complètement dégommée dans une administration Freeland, je pense qu'ils font fausse route parce que pour que les libéraux réussissent à renverser, à garder le momentum qu'ils ont présentement et peut-être espérer à une victoire libérale pour les prochaines élections générales, ils vont avoir besoin de tous les talents qu'ils ont autour de la table. Et Mme Freeland a démontré qu'elle était capable d'en prendre beaucoup et qu'elle est capable d'avoir des idées novatrices aussi. On a parlé justement de son idée sur l'utilisation des actifs russes pour financer la guerre en Ukraine. Donc, Mme Freeland s'est aussi démarquée dans les débats dans les dernières semaines. Je pense que les deux femmes se sont assurées de jouer un rôle dans la prochaine administration.
Écoute, v'là deux mois, on donnait Pierre Poilievre gagnant des prochaines élections fédérales. Puis là, ben, c'est quoi? C'est 50-50? Ou sinon, de ce que j'ai vu, c'est que Mark Carney sera en avance là, s'il y avait des élections demain matin, s'il était chef du Parti libéral du Canada. C'est assez particulier. C'est un monde particulier, la politique. Là.
Ah, c'est moi ça. On voit beaucoup de jamais vu présentement et un renversement de la situation comme ça. C'est à peu près 26 points dans le dernier mois. C'est franchement phénoménal. Et c'est surtout depuis que Justin Trudeau a démissionné. Oui, depuis que Donald Trump est arrivé, mais depuis que Justin Trudeau a démissionné, la courbe rouge dans la tendance des sondages est repartie à la hausse. Et les conservateurs, dans les projections de sièges, perdent des sièges à chaque semaine. Donc, ça les met dans une position où ce que les deux se rejoignent de plus en plus. Et quand on regarde des sondages, ce qui est important, c'est pas de regarder un sondage, mais bien de regarder la tendance des sondages. Parce que ce qui ça nous dit, c'est qu'il y a une tendance qui s'installe. Et quand la tendance est négative, c'est très difficile de la renverser.
Jérémy Guillot, c'est toujours un plaisir. Je te l'ai dit par message sur Instagram, mais on t'aime beaucoup. C'est vraiment pertinent. C'est tout le temps le fun de te jaser.
Ben moi aussi, puis on n'est pas toujours d'accord, mais c'est le fun de pouvoir avoir ces conversations.
Il n'y a rien de pire que des gens qui s'entendent pour être d'accord ou ils s'entendent pour être en désaccord. Nous autres, c'est vrai.
Bon, ben, passez une belle journée.
Salut, toi aussi.
L'excellent Jérémy Guillot, analyste politique. Hey, le Salon international de l'auto de Québec va battre son plein dans les prochains jours, les amis. Pascal a décidé de me quitter pour voir des aurores boréales.
Oui.
Entre moi et les aurores boréales, j'en reviens pas que tu aies choisi les aurores boréales.
Malgré le moins 27, là, j'ai quand même choisi les aurores boréales.
Mais là, tu t'en vas où, au Pôle Nord?
Nunavik.
Au Nunavik. C'est combien d'heures de vol?
Je sais pas c'est combien d'heures de vol.
T'amènes-tu de la bouffe?
Oui. C'est oui. vrai. Dans mes bagages, premièrement, j'ai droit à un poids plus grand dans mes bagages parce qu'ils savent qu'on n'a pas de la nourriture. Puis j'ai droit à une glacière tapée avec du frais.
Parce que ça a de l'air que parce les fruits et légumes là-bas, ça coûte une fortune.
Coûte une fortune, puis ça, c'est quand t'en as.
Ouais.
Fait que sinon, c'est des bagages particuliers, les premiers bagages très particuliers que je fais.
Mais bref, moi, je serai au Salon international de l'auto de Québec de mercredi jusqu'à dimanche, en fait, pour ce qui est de boulevard. Moi, j'arrête vendredi, mais il y a des gens de boulevard qui seront là samedi et dimanche. Puis on a pensé vous offrir un cadeau pour les enfants, puisque c'est la semaine de relâche. Donc, le Salon international de l'auto de Québec commence demain. On va être sur place. En attendant, bien, il y a un concours qui débute aujourd'hui, et vous courez la chance de gagner pour les enfants un motocross électrique de Apollo Motors Canada. Ça vaut 800$. C'est un super de beau cadeau pour les enfants. Donc, pour tenter votre chance, allez vous inscrire tout de suite. Là, je vous donne l'indice. Vous devez aller sur la page concours de Boulevard. C'est blvd.fm, donc la page web blvd.fm. Et l'indice d'aujourd'hui, vous l'inscrivez, Zone Lamborghini. Zone Lamborghini, ça vaut une motocross de 800$. Ça va être très cool pour les enfants cet été. On se voit au Salon de l'auto d'ici là. Profitez-en pour essayer les petits bolides électriques aussi de la zone Apollo Motors. Les enfants trippent, ça fait des beaux souvenirs. On vient.
La Disco Glace, c'est la première disco.